Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. Alors, je n'ai toujours pas fini de parler des femmes peintres du 19e siècle qui, malgré les obstacles dus à leur sexe, s'expriment quand même en peinture et avec succès pour certaines. Alors, je m'étais arrêtée au pré-raphaélite, mouvement qui mettait en scène des sujets mythologiques ou issus du Moyen-Âge. Il fut créé par des peintres anglais en recherche de pureté, de valeurs élevées, de spiritualité, et peut-être aussi pour s'opposer à leur époque, qu'ils jugeaient décadente avec son industrialisation envahissante. Et les femmes qui les inspiraient comme modèles étaient majoritairement peintres ou artistes elles-mêmes, et ces femmes étaient pour la plupart leurs épouses, amantes, sœurs ou filles. Alors, dans l'émission précédente, j'ai cité Elisabeth Sidal, Marie Spartalis Tillman, Marie-Éléonore Fortescue Brigdale. Je n'ai pas mentionné Jane Morris, inscrite dans ce mouvement, brodeuse accomplie et l'une des modèles favoris du peintre Rossetti, de surcroît l'épouse d'un designer textile William Morris, un artiste plutôt éclectique qui était peintre lui-même. Et elle travaillait dans la fabrique d'art décoratif de son mari avec ses filles et sa sœur. Alors, je citerai également Rebecca Salomon, sœur des peintres Abraham Salomon et du pré-raphaélite Siméon Salomon, qui, malgré l'empreinte qu'elle a laissée dans sa carrière, a été plutôt oubliée. Alors, ces tableaux n'hésitaient pas à refléter les problématiques découlant de préjugés de classe ou d'ethnie. Et elle a en outre rejoint un collectif de femmes artistes afin de faire pression sur la Royal Academy of Art, afin que cette institution artistique accueille des femmes en son sein. Alors, la peintre Joanna Mary Boyce-Well était sœur de peintre, un pré-raphaélite aussi, qui se nommait George Price Boyce. Et celle-ci consentit, après maintes réticences, par peur de perdre sa liberté d'artiste peintre, à épouser un portraitiste miniaturiste nommé Henry Tantworth Wells. Et elle mourut d'ailleurs prématurément en mettant au monde son troisième enfant. Alors, parmi ces femmes, je citerai encore Evelyne de Morgan, une femme de talent, une pré-raphaélite aussi, dont certaines des peintures révèlent une atmosphère lunaire, empreinte de rêve. Elle s'intéressait à la Renaissance et a peint des sujets mythologiques. Et elle en a profité pour s'épancher sur sa toile en y transposant ses malaises de femmes contraintes, empêchées par les règles limitatives, celles imposées par la famille et la société. Et elle y a aussi exprimé ses espoirs de libération. Et elle a épousé un célèbre designer concepteur de céramique nommé William de Morgan. Alors, Catherine Maddox Brown était modèle et peintre. Elle a évolué dans un milieu littéraire puisque son mari et ses fils étaient tous écrivains. Quant à sa sœur, Lucy Maddox Brown, mariée au critique d'art William Michael Rossetti, elle était modèle et artiste auteur et elle a d'ailleurs écrit une biographie sur Marie Wollstonecraft dont je vous ai relaté l'existence d'écrivaine dans l'émission 35. Alors, je continue avec Maria Zambacco, sculptrice de son état et créatrice de médailles. C'était la cousine de la peintre Marie Spartalis Tillman, dont j'ai parlé l'émission précédente. Elle était donc également grecque d'origine. Alors, voilà globalement présenté tout un ensemble de femmes qui ont participé en tant que modèles, assistantes, artistes en Angleterre, à l'émergence et à la pérennité de ce mouvement dit pré-raphaélite. Et j'espère en m'écoutant que vous ne doutez plus de l'importance de leur implication. Alors, nous étions en Angleterre après être passés aux États-Unis, en France et même dans les pays nordiques, mais que font les Italiennes par exemple? Alors, ces femmes peintres sont plutôt néoclassiques, d'un mouvement en faveur d'un retour à l'antique, du moins pour celles nées à la toute fin du XVIIIe siècle, comme par exemple Rosa Bassi Galuppo Carrera, fille du peintre Giuseppe Bassi Galuppo. Elle fut également l'assistante et la biographe de son père. Alors, son inspiration était plutôt en rapport avec le religieux et le mythologique. Alors, je citerai également Rosa Mezzera, qui fut la première femme à accéder à l'Académie di Brera de Milan pour y recevoir une formation d'artiste paysagiste. Alors pour celle née au XIXe siècle, nous rencontrons des sœurs nées dans une famille d'artistes et qui apprennent la peinture auprès de leur père. Et il s'agit de Fulvia Bisi, qui peint surtout des paysages, et de sa sœur Antonietta, qui réalise surtout des portraits. Alors une autre famille de peintres, d'où émergent Luigia Mussini Piaggio et sa fille Luisa. Alors Luigia Mussini Piaggio est l'épouse du peintre Luigi Mussini. Tous deux sont des peintres proches du mouvement nazaréen, qui est un mouvement romantique qui vient d'Allemagne. Ces peintres sont inspirés par les valeurs spirituelles et morales incarnées par Jésus-Christ et se relient par tradition au primitif italien. Et Luigia mourra en couche en mettant au monde sa fille Luisa, qui deviendra peintre elle-même et épousera un assistant de son père, le peintre Alessandro Franchi. Alors, entre autres italiennes, c'est la peintre inspirée par la Renaissance, nommée Beatrice Ancilotti Goretti, née fin du XIXe siècle en 1879. Alors, une Finlandaise s'est retrouvée en Italie, il s'agit d'Hélène Danielsson, qui épousera sur le tard son cadet de 13 ans, ce qui est rare pour l'époque, le peintre italien Raffaello Cambogi. Elle commence sa carrière dans son pays en rentrant à l'Académie de dessin d'Helsinki, deviendra enseignante, puis partira à Paris. Et globalement, elle vivra une existence plutôt anticonformiste et finira par s'installer en Italie. Et ses peintures, ce sont des paysages avec des personnages, des portraits, des scènes d'intérieur. Alors voilà pour les peintres que j'ai rencontrés au cours de mes recherches. Bon, je n'ai pas rencontré d'asiatiques ou d'orientales. Bon, je n'ai sans doute pas accès à toutes les sources. Alors quoi qu'il en soit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil ou plutôt dans l'ombre dans laquelle elles évoluent. Bon, je vous ai démontré que les femmes, tout comme les hommes créent, s'expriment et participent à la grande tradition de ces artistes qui témoignent de leur temps, de la société dans laquelle elles évoluent ou tout simplement de leur humanité avec autant ou plus ou moins de talent et de disposition que les hommes. Alors, depuis le temps que je parle des femmes artistes, je me trouve maintenant face à un dilemme à cause de ce devoir que je me suis imposé de leur rendre hommage en vous en présentant un maximum ainsi que leurs œuvres. Alors, mon dilemme n'est simple, je ne sais plus comment finir avec ce sujet, tant elles sont nombreuses et tant il y en a à en dire quand on fait l'effort de les sortir de l'ombre dans laquelle la société, les mœurs les ont maintenues. Et je sais aussi que j'en oublie en route et peut-être pas des moindres. Mais je ne pensais vraiment pas en débusquer autant, si bien que si je ne me concentre pas, eh bien je finis par m'en mêler avec les noms et les destinées. Alors je vérifie bien sûr, mais je suis véritablement en surchauffe. Alors je me rends bien compte, et vous aussi sans doute, en dehors du sujet artistique, que si ce pan ou ce versant ou ce côté de l'humanité n'existait pas, d'abord le monde n'existerait pas, mais toutes les constructions humaines n'auraient pu aboutir. Alors quand je dis côté de l'humanité, je ne peux m'empêcher de penser à l'enseignement religieux qui transforme le côté en côte, ce petit bout d'os pour Ève. L'humanité étant bien évidemment principalement incarnée par Adam, car Ève n'est accessoirement créée que pour que ce pauvre garçon ne se sente pas trop seul et puisse joindre l'utile à l'agréable en faisant des gosses à gogo. Alors, vu dans ce sens littéral, hélas toujours d'actualité, le brave garçon affublé de cette nana, si je puis dire, qui prouve déjà sa bêtise en mordant dans un fruit défendu qu'elle est inconsciente pour attirer la colère divine sur toute la création et la faire chuter pour des siècles et des siècles, un petit bout de femme issu en plus d'une toute petite côte de rien du tout, quel culot! Combien ce pauvre homme avait raison et ses descendants de faire porter à Ève et ses filles toute la culpabilité du monde et l'opprobre qui va avec. Et non plus maintenant qu'à faire profil bas, et puis c'est tout. Et voilà comment l'inconscient collectif est imprégné de schémas ploplos et de fables enfantines. Alors il est certain que c'est beaucoup plus fatigant, mais moins commode, de chercher un niveau de compréhension accordé à l'intelligence et la sagesse à condition d'en disposer quelque peu, d'où peut-être il serait possible de soulever un voile sur ce mystère qui nous lie à notre existence incarnée. Fin de la parenthèse, à méditer. Bon, nous allons faire une petite pause musicale pour mettre à l'honneur encore une fois une compositrice du 19e siècle, comme je vous l'avais promis. Aujourd'hui, nous allons écouter Pauline Viardot. Alors, qui était Pauline Viardot? Pauline Viardot née Garcia est la fille d'un ténor espagnol nommé Manuel Garcia. Elle est également la sœur de la célèbre cantatrice Maria Malibran. Elle épousera un directeur de théâtre, le directeur du Théâtre des Italiens à Paris nommé Louis Viardot. Et d'un mariage d'amour qui durera quelques décennies, elle aura des enfants, tous artistes, violoniste pour un fils, cantatrice pour les filles et compositrice écrivaine pour l'une d'elles. Alors, cantatrice elle-même, après avoir été l'élève de Franz Liszt pour le piano, elle se lancera dans la composition après une belle carrière et une vie bien remplie et heureuse. Et avec l'âge, elle enseignera la musique, surtout aux femmes, et soutiendra de jeunes musiciens comme Gabriel Fauré ou Jules Massenet. Alors, il s'agit là d'un beau parcours d'artiste femme épanouissant. Alors pour faire connaissance avec sa musique, nous allons écouter une sérénade. Après ce petit intermède, revenons non pas à nos moutons mais aux femmes artistes. Et je n'ai pas encore abordé le cas des femmes sculpteurs, les sculptrices. Je me rends compte également que les femmes écrivaines n'ont pas toutes été citées. Il me manque quelques pays avec des personnalités intéressantes. Par exemple, Karen Blixen, née en 1885, et qui est une femme de lettres danoise. Alors, vous avez fait sa connaissance, peut-être sans le savoir, grâce à l'interprétation de la talentueuse comédienne Meryl Streep dans le film Out of Africa. Et en effet, ce film est inspiré de l'un de ses romans, bon, qui est plus une autobiographie, car il s'agit de sa propre histoire. Alors, elle écrira un autre livre qui sera porté à l'écran, intitulé « Le festin de Babette ». Et là encore, une non moins talentueuse comédienne française, cette fois, nommée Stéphane Audran, incarnera Babette, l'héroïne de l'histoire, un grand chef de la gastronomie française perdu en terres étrangères. Or, je trouve intéressantes ces femmes de la fin du XIXe siècle qui tentent de s'affranchir et en font à leur tête, même si elles tombent dans des excès avec le risque de se brûler les ailes. Et c'est le cas de l'anglaise poétesse Renée Vivien, née en 1877, de son vrai nom Pauline Marie Tarne. Elle est surnommée la Sappho 1900, qui était une célèbre poétesse grecque de l'Antiquité. Alors c'était une grande voyageuse qui s'est installée à Paris, où elle a pris son nom de plume Renée Vivien. Alors, c'est aussi quelqu'un qui exprimait librement ses penchants sexuels pour les femmes, et de nature plutôt tourmentée, elle s'est aussi adonnée à la boisson et a fait quelques tentatives de suicide. Alors, parmi ces écrivaines de la fin du XIXe siècle, une écrivaine roumaine nommée Anna de Noailles, fille de prince expatrié et née Bibesco Basaraba de Brancova, rien que ça. Alors, elle naît à Paris, sa mère est une pianiste grecque reconnue nommée Rulaka Moussouros, si ça vous dit quelque chose. Elle reçoit une solide éducation, plutôt orientée vers les arts, notamment la musique et la poésie, ce qui ne l'empêchait pas de parler plusieurs langues. Elle devient Noailles par mariage, fait salon où elle reçoit tous les intellectuels et artistes de l'époque, comme Paul Claudel, Paul Valéry, Jean Cocteau, André Gide, pour ne citer que cela. Alors avec des femmes, elle crée un prix littéraire nommé « Vie heureuse » qui deviendra par la suite le prix Femina en 1922. Et ce sera en outre la première femme commandeur de la Légion d'honneur et la première femme reçue à l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. Et ses thèmes littéraires sont la nature, l'amour, la mort. Bon, apparemment, elle était aussi un peu excentrique. Alors, mon attention a été attirée par une connaissance, merci Alain alias Artogu, sur la personne de Lou Andrea Salomé, née en 1861, Louise ou Lyolia von Salomé, une femme de lettres, française par le père, un expatrié anobli en Russie pour fait d'armes par Nicolas Ier, et allemande par la mère, et qui grandit en Russie, où elle a appris le russe, l'allemand et le français. Alors, éprise de connaissances, elle lit déjà les philosophes adolescentes, se choisit un formateur dont l'esprit lui semble à niveau, et ce, en la personne du pasteur Heinrich Gillot, avec lequel elle complétera son éducation en philosophie, spiritualité et littérature. Alors, connaissances, mais aussi confrontation et partage de réflexions, échanges intellectuels, auprès des philosophes, poètes, écrivains du moment, et je citerai pêle-mêle les philosophes allemands Paul Rée, Friedrich Nietzsche, le poète Rainer Maria Rilke. Or, son comportement semblera assez insolite pour une femme, car il semblerait qu'elle ait recherché davantage l'union des esprits dans des rapports équilibrés, d'égal à égal avec les hommes, et qu'elle y ait réussi. Que une simple relation amicale, voire amoureuse. Alors, comme elle montre une appétence certaine pour les échanges intellectuels avec les esprits supérieurs de l'époque et que son acuité d'esprit l'y prédispose, la plupart de ceux qu'elle côtoie sont à la fois étonnés, voire charmés de ce qu'une femme est capable de susciter en eux comme stimulation intellectuelle. Alors sa féminité séduira aussi certains, mais aucun succès sur ce plan-là, à part une liaison avec le poète Rainer Maria Rilke, de 14 ans son cadet, où il est supposé que, enfin, dans cette relation, les corps, les âmes et les esprits ont réussi à s'entendre dans une totale complicité. Alors, elle se marie pourtant avec un orientaliste allemand nommé Karl Friedrich Andreas et fixe ses conditions qui sont pas de lien charnel ni d'enfant. Alors, le monsieur amoureux, sans doute, accepte, hein, du moins au départ, sauf qu'à l'arrivée, eh bien, c'est Lou qui aura le dernier mot, ce qui ne les empêchera pas de partager une bonne complicité sur d'autres plans et de cheminer côte à côte tout au long de leur vie. Enfin, tout cela, c'est elle qui le raconte dans sa biographie. Alors, à part la littérature qui sera son mode d'expression, où elle écrira romans, essais, réflexions, Lou sera connue comme psychanalyste, car elle fréquentera Sigmund Freud et sa fille Anna Freud au moment où la psychanalyse était au goût et à l'ordre du jour. Alors, il est clair que c'était une femme qui se voulait libre avant tout, qui regardait bien au-delà des contingences physiques et matérielles et ne se sentait pas l'envie ou l'énergie, voire le courage d'assumer autre chose que ses recherches intellectuelles et spirituelles. Sans compter que peut-être elle sentait qu'une relation charnelle aurait gâché la véritable complicité qu'elle réussissait à instaurer avec certains sur des plans qui lui convenaient. Or, c'est une supposition, une hypothèse, on peut voir les choses ainsi. En tout cas, moi, je le comprends. Alors, une Américaine également, Gertrude Stein, née en 1874 en Pennsylvanie. Elle était écrivaine, poétesse, dramaturge. Elle a défendu l'art moderne, notamment le cubisme en peinture. Elle et son frère étaient des collectionneurs d'art. Elle vivra d'ailleurs à Paris et recevra chez elle tout l'avant-garde du monde entier. Alors, elle écrira beaucoup, et notamment sur les peintres qu'elle aimait et dont elle achetait les œuvres, comme Picasso, Matisse, Cézanne, et soutiendra particulièrement un jeune artiste espagnol nommé François de Ribas-Rovira, issu de l'école de Paris, qui regroupait nombre d'artistes étrangers du XXe siècle. Alors, parmi ses livres, vous trouvez biographie, critique artistique, réflexion sur l'art. Un titre me vient, La fabrique des Américains. Et voici pour Gertrude Stein, une personnalité riche et sensible au monde des plasticiens et de la peinture en particulier. Alors, un petit tour au Chili en ma compagnie qui vous changera, une fois n'est pas coutume, d'Eduardo León et de son épouse Béatrix, nos sympathiques animateurs de l'émission dédiée à l'Amérique latine sur RLP. Et que je salue au passage, s'ils m'entendent. Alors, il s'agit d'une poétesse Gabriela Mistral, née Lucila de Maria del Perpetro Godoy Alcayaga. J'arrive au bout. C'est bien pour moi. D'habitude, je m'en mêle dans les noms. Alors, elle prit son nom de plume, qui est une contraction des noms de ses poèmes, écrivains préférés. D'une part, Gabriel D'Annunzio, qui est un auteur italien, et d'autre part, Frédéric Mistral, un écrivain méridional français bien connu. Alors, c'est une personne qui vécut difficilement son début de vie, car son père abandonna la famille avec toutes les conséquences que cela suppose en dénuement et difficultés de survie, ce qui n'empêcha pas la jeune personne de s'éduquer et devenir institutrice à 14 ans et publier ses poèmes à 15 ans. Alors, il est vrai que le système politique, hein, plus la pénurie d'enseignants de l'époque, favorisait des prises de poste anticipées, mais la jeune fille était aussi très curieuse, intelligente et douée. Alors, elle devint éducatrice, mais aussi diplomate par la suite, et fit de nombreux voyages à l'étranger, au Mexique, mais aussi en France. Alors, en littérature, elle remporta au début de sa carrière le prix Ruego Florales pour son recueil de poèmes intitulé « Sonnet de la mort ». Alors, il faut dire que le suicide d'un ami impacta sa créativité et celle-ci était souvent empreinte de mélancolie. Ses thèmes étaient variés, elle abordait l'amour, la mort, l'attachement au pays, aux gens, les petites gens. les femmes, la maternité, elle qui n'eut pas d'enfant, et elle recevra pour son œuvre le prix Nobel de littérature en 1945, le titre de docteur honoris causa du Mills College d'Oakland en Californie et le prix national de littérature au Chili. Alors voilà globalement ce que je peux dire sur ces écrivaines, poétesses. Si vous trouvez un intérêt pour elles, vous pouvez toujours vous documenter et les lire. Bon, j'en oublie certainement, hein, encore que je fasse mon possible. Et figurez-vous que nous sommes arrivés à la fin de l'émission. J'espère que vous ne vous êtes pas ennuyés en compagnie de toutes ces dames. Remarquez que là, il est facile de me faire taire. Il suffit simplement de tourner un bouton. Ce serait dommage, hein, avouez, pour elle si intéressante, et pour moi aussi, hein, qui me donne tant de mal pour tous, et c'est vrai. Alors sur ce, ben merci de votre écoute, et à bientôt, c'était Christine Darboux, à la Voix des Arts, sur Radio Libre en Périgord, 102.3. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.